RJB Info.
Le journal Alexandre Steiner, bonsoir.
Bonsoir. Des milliers de réfugiés climatiques qui fuient la Suisse pour se rendre aux États-Unis. Ce n'est pas un scénario catastrophe, mais c'était il y a 150 ans. Une pièce de théâtre sur le sujet sera présentée l'an prochain à Nido. On en parle dans un instant. Elle n'aura lieu que dans 2 ans dans la région, mais elle se prépare déjà en coulisses. La fête cantonale de lutte 2021 se tiendra à Tramelan. Les organisateurs veulent en faire un événement résolument familial. L'équipe de Suisse de football doit jouer juste face à la République d'Irlande ce soir à Genève. Une défaite compromettrait ses chances de qualification pour l'Euro 2020. La Nati gère plutôt bien cette pression, vous l'entendrez. Les averses encore fréquentes en début de soirée vont cesser dans le courant de la nuit. La journée de demain s'annonce bien ensoleillée après dissipation des nuages matinaux. Il fera 15 à 17 degrés au maximum. Il y a 150 ans, des Suisses quittaient le pays par milliers pour des raisons climatiques. Ces réfugiés se rendaient principalement sur le continent américain. C'est cette histoire qu'a décidé de raconter Jürg Frankhauser dans sa nouvelle pièce de théâtre. Baptisée Auswanderer, elle sera jouée en août et septembre de l'année prochaine dans le parc du château de Nido. Durant les 3 actes, les spectateurs pourront suivre l'histoire d'une famille du Seeland qui tente de rejoindre New York pour échapper aux inondations, à la famine et aux maladies. Si l'histoire est fictive, elle s'inspire pourtant de faits réels et qui font écho à des situations plus actuelles. On écoute Jürg Frankhauser.
En 19e siècle, première partie du 19e siècle, la Suisse comptait 2,3 millions d'habitants et un demi-million a émigré. C'est incroyable. Et aujourd'hui, quand on parle des immigrants, on n'y pense plus. Qu'il y a quelques dizaines d'années, c'était à l'envers. C'était les Suisses qui cherchaient le bonheur ailleurs.
Votre pièce, c'est une pièce militante ?
Non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pièces au festival, partout, des pièces militantes où il y a des immigrants qui jouent les rôles, qui montrent comment ils viennent en Europe, comme ils sont mal reçus. Et dans ce genre, il y a beaucoup de pièces modernes. Moi, je raconte l'histoire des Suisses qui ont quitté la Suisse il y a 150 ans.
Des propos recueillis par Anthony Montandon, Auswanderer sera joué du 19 août au 19 septembre 2020 dans le parc du château de Nido. Un jeune homme s'est fait voler son téléphone portable et asperger de spray au poivre. Les faits se sont produits hier en fin d'après-midi à Nido. La victime est sortie du bus à l'arrêt de la rue Gugler vers 17h35 et s'est ensuite dirigée vers la Bernstrasse. Le jeune homme s'est fait aborder par un inconnu dans le passage souterrain. Il s'agissait d'un autre jeune homme qui était vraisemblablement dans le même bus, selon la police cantonale bernoise. L'individu a alors essayé de lui arracher son téléphone avant de l'asperger de spray au poivre. L'auteur s'est ensuite enfui avec le portable en direction de la rue de Bienne. La police a ouvert une enquête et recherche des témoins. Le vote du 18 juin 2017 sur l'appartenance cantonale de Moutier est bel et bien annulé. Le tribunal fédéral n'a reçu aucun recours contre le jugement du tribunal administratif bernois. Il l'a fait savoir cet après-midi. La justice bernoise qui a cassé le vote avait transmis son jugement au parti le 29 août. La cité prévotoise devrait ainsi être rappelée aux urnes. Le conseil municipal entend fixer la nouvelle votation le 21 juin prochain. La suite du processus doit désormais être réglée sous l'égide de la tripartite qui réunit les cantons de Berne du Jura ainsi que la Confédération. Le 15 octobre marque la journée internationale de la canne blanche, l'occasion pour les personnes atteintes de handicap visuel de descendre dans la rue. Diverses actions se sont tenues aujourd'hui dans tout le pays sous l'égide de la Fédération des aveugles et malvoyants. Cette année, l'accent a été mis sur l'importance des lignes de guidage marquées au sol dans l'espace public. Des lignes qui ne sont pas toujours respectées. Anne Perrier, membre de la Fédération suisse des aveugles et malvoyants.
Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas à quoi servent ces lignes de guidage, qui les trouvent désagréables, c'est vrai, sous les pieds, sous les talons aiguilles. Mais ce sont des lignes qui permettent à nos membres extrêmement malvoyants ou aveugles de se diriger, de ne pas tomber dans les gares sur les rails. Et ça leur permet également de savoir, vous avez remarqué, il y a 2 rails de 3 lignes qui se suivent, et puis lorsqu'il y a un changement de direction, vous avez un panneau avec des lignes plus proches les unes des autres, et ça permet de signaler aux personnes qui ne voient vraiment pas qu'il y a un changement de direction.
Et ces lignes de guidage, souvent les gens n'y prêtent pas attention, et c'est le sens de votre message aujourd'hui, il faut libérer ces lignes de guidage.
Tout à fait, il faut éviter de... J'ai vu encore, il y a deux jours, j'ai vu deux personnes qui discutaient longuement. Ils étaient vraiment debout sur les lignes de guidage. Et on peut aussi, par inadvertance, poser un sac. Et là, nos membres peuvent tomber, en tout cas le taper.
Des propos recueillis par notre consoeur de LFM, Donatella Romeo. Les mouvements pour le climat ne cesseront pas après les élections. Les jeunes activistes appellent aujourd'hui à retourner dans la rue à l'occasion d'une grande grève pour le futur le 15 mai 2020 et espèrent être suivis partout dans le monde. Cette grève prendra le relais de la grande manifestation qui avait réuni le mois dernier entre 60 et 100 000 personnes à Berne. Elle réclamait la justice climatique et l'abandon des énergies fossiles. Léna Buller du mouvement pour le climat, coordinatrice de la grève pour le futur de mai prochain.
Évidemment, notre idée principale est que le climat concerne tout le monde. Nous faisons face à la plus grande crise de l'histoire de l'humanité. Et cela ne suffit pas que de jeunes gens sacrifient leurs vacances pour avoir un avenir. C'est pourquoi nous appelons tout un chacun à s'engager, à créer des collectifs et à se demander ce qu'il peut apporter pour résoudre cette crise climatique. Nous ne visons pas un record de participation, même si nous espérons être nombreux pour montrer au monde politique et économique que notre mouvement est largement soutenu.
Différents collectifs se joignaient déjà aux jeunes, certains liés à la grève des femmes par exemple, ou encore les grands-parents pour le climat que représentait ce matin Beat Lecher.
Pour moi, c'est une longue histoire, car nous nous sommes battus il y a longtemps contre les centrales nucléaires ou pour deux dimanches sans voiture, et nous avons toujours perdu. Mais j'espère qu'il y aura des améliorations avec le nouveau Parlement, la nouvelle ministre de l'Environnement et tout ça. Nous avions conscience des problèmes, et ces jeunes aussi, et ils remarquent qu'il s'agit de leur avenir et qu'il faut changer les choses, sans quoi il n'y aura plus d'avenir.
Les jeunes pour le climat espèrent également pouvoir collaborer avec les syndicats, jugeant que les questions climatiques sont liées aux enjeux sociaux. La commission de politique extérieure du Conseil des États s'inquiète de l'offensive militaire turque en Syrie. Elle compte suivre de près les développements de la situation et a notamment examiné les conséquences de cette intervention pour le peuple kurde. Elle a également regardé les conséquences que cette offensive pourrait avoir en Suisse et en Europe. D'éventuelles mesures de la part de la Suisse sont de la compétence du Conseil fédéral. Et la compagnie aérienne suisse va temporairement clouer au sol ses appareils A220, conçus par le Canadien Bombardier et repris par l'Européen Airbus. Ces avions doivent faire l'objet d'une inspection complète en raison de problèmes moteurs. Suisse indique que ce passage à l'atelier entraînera des annulations de vol. Les passagers touchés pourront être transférés sur d'autres vols aux frais de la compagnie. La consolidation de Notre-Dame de Paris progresse lentement. Le ministre français de la Culture a fait le point aujourd'hui, 6 mois après l'incendie de la cathédrale. Franck Rister a précisé que l'édifice n'est pas totalement sauvé tant que la voûte n'est pas consolidée et que l'échafaudage n'est pas démonté. Près d'1 milliard de francs ont déjà été promis pour le chantier du siècle. Une reconstruction dans les 5 ans reste l'ambition. Les derniers hommages ont été rendus aujourd'hui à Alexei Leonov. Il était le premier homme à être sorti dans l'espace. C'était en 1965. Des centaines de personnes, dont des vétérans russes et américains de la conquête spatiale, sont venus faire leurs adieux à l'ancien cosmonaute soviétique, décédé la semaine dernière à l'âge de 85 ans. Ses obsèques se sont déroulées dans un mémorial militaire près de Moscou.
À l'écoute d'RJB, il est 18h09.
Sport. Les préparatifs pour la fête cantonale bernoise de lutte 2021 à Tramelon ont déjà commencé. 7 ans après Saint-Imier en 2014, l'événement reviendra dans la région. Les 7 et 8 août 2021, plus de 300 lutteurs jeunes et actifs s'affronteront dans les ronds de Sihur installés sur le terrain d'entraînement du FCTT. Les organisateurs attendent entre 6 000 et 8 000 spectateurs, soit moitié moins que lors des fêtes cantonales qui se déroulent dans la partie alémanique du canton. Le budget, 500 000 francs, sera loin des 2 millions déjà déboursés par d'autres régions. Mais le coprésident du comité d'organisation revendique et assume une fête qui se veut plus familiale, Hervé Gulotti.
C'est-à-dire que les lutteurs ont la possibilité, ils côtoient carrément le public, donc les gens ont la possibilité de voir de très près les lutteurs, de leur parler. En 17, quand il y a eu la fête régionale, enfin la fête du Jura bernois ici à Tramelan, il y a des dédicaces qui ont été faites aussi carrément au bord des rondes-sures, donc il y a cette proximité qui est vraiment appréciée. Puis je crois que nos amis alémaniques viennent aussi ici pour ça, parce qu'il y a ce côté beaucoup plus festif et comme vous l'avez dit, familial.
On le voit dans le budget, c'est 4 fois moins quasiment qu'une autre fête de lutte. Ce ne sera pas une fête au rabais pour autant ?
Non, pas du tout. Alors c'est sûr qu'on attend moins de monde parce que peut-être le fait qu'on soit excentré provoque ça. Mais non, ce ne sera pas une fête au rabais. On a des infrastructures qui se prêtent aussi merveilleusement à l'organisation d'une telle manifestation. Il y a des personnes dans la région qui sont amatrices de lutte, donc qui sont déjà impliquées dans l'organisation d'autres fêtes. Donc il y a déjà du professionnalisme. Et à Tramelan, il y a quand même, il faut le souligner, un esprit de bénévolat qui fait que les gens s'engagent volontiers pour des manifestations, pour la visibilité de leur village. Donc il y a quand même des éléments qui font que le stress est moins grand que si on partait de zéro.
Cette fête cantonale se tiendra exceptionnellement sur 2 jours. Le samedi 7 août sera consacré à la fête cantonale des jeunes lutteurs, tandis que les actifs en découdront le dimanche. Le HC Bienne tentera de valider ce soir son billet pour les 8e de finale de la Ligue des champions de hockey sur glace. Les Célandais reçoivent les Autrichiens de Klagenfurt à 19h45 à la Tissot Arena pour la dernière journée de la phase de groupe. Le HC Bienne doit prendre au moins un point pour se qualifier sans avoir à regarder les résultats de ses concurrents. Les Biennois l'avaient emporté 6-3 en Autriche la semaine dernière. Et l'équipe de Suisse de football ne doit pas perdre ce soir face à la République d'Irlande. Une défaite compromettrait ses chances de qualification pour l'Euro 2020, alors qu'une victoire la placerait sur les bons rails. L'enjeu est important pour la Nati, qui est actuellement 3e de son groupe, à 4 points du Danemark et des Irlandais. Mais le milieu de terrain et vice-capitaine Granit Xhaka assure que l'équipe gère plutôt bien cette pression.
Ça n'est pas la première fois que nous avons la pression. Nous sommes sous pression avant chaque match. Nous savons comment faire face à la pression. Donc, il n'y a rien de nouveau. Nous devons gagner le match de ce soir. C'est la seule chose qui compte pour nous.
Et pour l'emporter, il faudra notamment faire sauter le verrou des Irlandais. Ils n'ont encaissé que 2 buts lors des 6 premiers matchs qualificatifs. Là encore, Granit Xhaka affiche une certaine confiance.
Défensivement, c'est une équipe qui est très très solide et bien organisée. Au match aller à Dublin, nous avons eu de bonnes occasions de but, mais sans réussir à marquer. C'est pourquoi nous devons continuer de la sorte en nous procurant des opportunités et bien sûr concrétiser ces occasions. Prendre en défaut cette défense n'est pas simple, mais nous avons suffisamment de qualité pour y parvenir.
Des propos recueillis et traduits par notre confrère de Radio-Lac, Blaise Bugil. Le coup d'envoi de cette rencontre Suisse-République d'Irlande sera donné à 20h45 à Genève, au stade de la Praille. La Bulgarie appelle à la démission immédiate du président de sa Fédération nationale de football. Le Premier ministre bulgare a fait une déclaration en ce sens aujourd'hui. Elle fait suite aux cris racistes et saluts nazis qui ont perturbé hier le match de qualification à l'Euro 2020 entre la Bulgarie et l'Angleterre. Il est inadmissible que la Bulgarie, l'un des pays les plus tolérants du monde, soit associée à la xénophobie, a écrit le chef du gouvernement. Il a ordonné la rupture de tout lien, y compris financier, avec la Fédération bulgare jusqu'à ce que la démission de son président soit effective. En tennis, l'équipe de Suisse féminine se produira à Bienne en février. Elle va défier le Canada dans la cité salandaise pour le compte du premier tour de Fed Cup. Suisse Tennis a dévoilé le choix du site cet après-midi. La rencontre se jouera les 7 et 8 février. Et pour terminer, le prochain Tour de France cycliste ne sillonnera pas la Suisse. Le tracé de l'édition 2020 de la Grande Boucle a été dévoilé en fin de matinée à Paris. Le peloton pédalera à quelques encablures de l'arc jurassien. Comme cette année, la redoutable planche des Belles-Filles en Haute-Saône figure au programme. Ce sera même l'arrivée du seul contre-la-montre la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. La part belle a été laissée aux Alpes puisque le tour ne fera qu'un bref passage dans les Pyrénées et le Massif central. Toute la partie nord de la France a été délaissée en dehors des 2 dernières étapes. Le Tour de France s'élancera de Nice le 27 juin pour se terminer à Paris le 19 juillet. Excellente soirée à toutes et à tous.
Et excellente soirée à vous également, Alexandre Steiner. Tout de suite, bien sûr, la météo. S'en suivra un peu de musique. Et à 18h20, on prend l'air. Pour ce soir, la pluie devrait continuer de tomber dans la région, mais une accalmie est prévue durant la nuit et nous repasserons au sec. Demain, nous nous réveillerons sous les nuages denses, dans les hauteurs en tout cas, mais pas de précipitations au menu. C'est plutôt le soleil qui arrivera à se faire une place à toutes les altitudes au fil des heures. L'après-midi s'annonce plus doux et bien dégagé. Concernant les températures, il fera entre 5 et 7 degrés à l'aube, donc on se couvre. Mais pour la seconde partie de journée, ça devrait monter 15 degrés dans le vallon de Saint-Imier, maximum 17 degrés à Moutier, tout comme à Bienne. Dès jeudi et jusqu'à lundi en tout cas, le temps sera à nouveau humide et frais.